Et nous allons passer une nouvelle semaine de découverte. C'est une première, nous tournons ce reportage dans une voiture, mais en même temps, c'est sans doute l'un des outils, l'un des lieux de travail de notre invité, Pascal Regnault, qui est détective, agent de recherche. On va dire détective privé, c'est comme ça qu'on vous appelle bien souvent.
Bien souvent, oui, on nous appelle des détectives privés, mais en réalité, nous sommes des détectives agents de recherche.
Voilà, ça c'est le nom officiel, effectivement, parce qu'on va expliquer que c'est très encadré. Hein. Vous êtes à Château-Ponsac, vous, pour ce qui concerne votre siège social, et ça fait quoi, plus de 30 ans, 35 ans que vous exercez ?
Moi, ça fait 35 ans que j'exerce cette profession, exactement depuis le 27 août 1982. Dans un premier temps, jusqu'en 2011, on avait un agrément par la préfecture sous le contrôle des renseignements généraux. Depuis 2011, depuis le décret du 22 décembre 2011, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité qui est basé pour nous à Bordeaux, qui nous délivre par la commission interrégionale d'agrément 3 agréments. Un agrément AGD avec un numéro, un deuxième agrément d'autorisation d'exercer avec un numéro et un troisième agrément, une carte. Et cette carte est validée par le Conseil national supérieur des agents de recherche privés qui nous délivre une carte fédérale annuelle avec un numéro annuel.
Donc là, la carte, c'est ce que vous avez dans le portefeuille. Donc c'est une carte que vous êtes amené à présenter. On peut demander, quand on est sollicité par un détective, on peut demander une carte. Normalement, un vrai détective doit être en possession de cette carte.
On doit la demander. Beaucoup de gens font confiance, mais moi, je présente ma carte à chaque fois que j'ai un rendez-vous.
Donc, sur cette carte, il y a photo, le nom, l'adresse, voilà, tous les éléments qui permettent de bien vous identifier.
C'est une carte où il y a noté Conseil national supérieur des agents de recherche privée avec détective agent de recherche, l'année 2017, mon nom, mon prénom, ma date de naissance et mon lieu de siège social.
Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que détective, c'est très secret. Non, vous êtes amené à vous présenter, vous aussi, aux personnes que vous allez rencontrer.
Oui, tout à fait. Et en plus, je précise que sur cette carte, il y a les numéros d'agrément qui sont notés également.
Et carte annuelle, donc ça veut dire que tout est remis à zéro à chaque année.
Alors, en ce qui concerne le Conseil national des activités privées de sécurité, notre agrément est définitif, mais peut être supprimé au cas d'erreur grave. Maintenant, le Conseil national supérieur des agents de recherche privée délivre une carte, annuelle.
Vous avez la dernière en date, donc tout va bien. On va pouvoir poursuivre cette semaine de découverte. Alors, les choses sont très encadrées. Est-ce que, pour le grand public, vous avez l'impression que c'est un métier qui est encore très méconnu? On a plein d'idées reçues. On fantasme peut-être beaucoup sur cette profession?
Oui, il y a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous demandent des choses invraisemblables. Et il faut bien comprendre que nous avons une activité qui est réglementée et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment et employer du matériel comme pensent beaucoup de gens parce qu'ils regardent un petit peu trop la télévision. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire.
Alors, on n'est pas à la James Bond en tous les cas à proprement parler avec des gadgets futuristes. On verra concrètement ce que ça veut dire. C'est un métier qui suscite quand même la curiosité quand vous en parlez avec des gens qui ne vous connaissent pas. Vous sentez qu'il y a une curiosité, on a envie d'en savoir un peu plus?
Ah oui, tout à fait. Il y a plein de gens qui nous posent des questions. Comment ça se passe? On peut pas définir comment se passe une filature ou une enquête, puisque chaque dossier est différent et particulier. Donc, on peut très bien se retrouver sur un dossier croyant que cela va se passer en une heure ou deux, et on se retrouve avec des dossiers qui durent 2, 3, 4, 5, 6 jours, voire 8 jours.
On verra et concrètement quels peuvent être ces dossiers en tous les cas. Alors, vous travaillez pour les particuliers, pour les entreprises aussi, mais le plus gros de votre clientèle, qu'est-ce que c'est?
Alors, moi je travaille donc depuis 35 ans, je travaille pour les cabinets d'avocats qui font appel à moi par rapport à leurs clients. Pour des particuliers qui n'ont pas d'avocat, et dans ces cas-là, on les conseille également, et les entreprises.
Il n'y a pas de règle, hein, ça peut être assez aléatoire d'une semaine à l'autre. Il y a des points d'activité sur des périodes de l'année.
Ben écoutez, pour cette année, janvier, j'ai terminé mes dossiers du mois de décembre, et janvier a été un petit peu calme, et puis depuis 3 jours, j'ai un dossier par jour qui rentre.
On espère que ça s'est bien reposé sur janvier, donc. Comment tout a commencé pour vous, 35 ans en arrière? Comment on décide de se lancer dans cette univers-là?
Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer un détective qui avait une agence quand j'avais 18 ans et qui m'a pris en formation Après, je suis parti à l'armée. Et au retour de l'armée, ben, je me suis lancé.
C'est compliqué. Comment on fait ses premières armes?
C'était compliqué parce que on a à l'époque on avait un téléphone et on attendait qu'il sonne. Et puis bon voilà, c'est du fil en aiguille, les connaissances, les rencontres avec des gens, de faire du bon travail, ça amène d'autres clients.
Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Il y a justement de la concurrence en termes de détectives sur une région comme le Limousin par exemple. Vous êtes plusieurs, vous connaissez entre vous?
Alors, moi, je ne connais pas mes concurrents. J'ai toujours travaillé tout seul. Je sais que j'ai un confrère ou deux à Limoges. J'ai eu d'autres confrères qui se sont installés à une époque. Mais comme je dis, moi, ça fait 35 ans que je suis là et je suis encore là. Et eux, ils sont plus là.
Donc, on verra effectivement, concrètement, tout au long de cette semaine, ce que vous proposez au sein de l'agence Aquitaine Limousin, qui est le nom de votre société. Donc, Pascal Regnault, on va se retrouver demain pour détailler notamment ce que vous proposez pour les particuliers. On va voir que ça va bien au-delà de ce que l'on imagine. Notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de la profession de détective agent de recherche, détective privé pour vous parler d'un langage peut-être plus populaire. Nous sommes avec Pascal Regnault de l'agence Aquitaine Limousin qui est détective agent de recherche depuis plus de 35 ans, installé à Château-Ponsac. Et après avoir fait les présentations hier, on va découvrir concrètement en quoi consiste ce métier de détective agent de recherche. On l'a dit, alors vous travaillez à la fois pour des particuliers, pour des entreprises, on parlera des entreprises demain, mais pour les particuliers, quand on pense à détective, on a l'impression que c'est uniquement pour aller dénicher de l'adultère. Ça va beaucoup, beaucoup bien au-delà de ça.
Oui, l'adultère a été à une époque 90% de notre travail et on travaillait 10% pour les entreprises. Maintenant, ça a tout changé. On a presque inversé le travail particulier et de 40%, le travail des entreprises 60%. Pour les particuliers, on fait des préparations de constat d'adultère, qui est toujours effectif, on en fait encore, on en fait beaucoup moins qu'avant, parce qu'à une époque on en faisait un par semaine et maintenant on en fait 4 à 5 par an. Hein. Et ce qu'on travaille également pour les particuliers et pour les gens, c'est ce qui concerne les gardes des enfants et la révision des pensions alimentaires. On a également une partie de recherche de personnes disparues, où vous avez des amis que vous avez perdu de vue et vous voulez les revoir, et vous avez fait appel à un détective.
Mais c'est pas forcément une situation de crise, un couple qui veut se déchirer. Non, ça peut être pour des choses positives. Hein.
Ah, tout à fait, pour des choses positives.
Donc on fait un peu la généalogie finalement avec vous.
Un petit peu, oui.
Il y a des demandes hors de vos compétences largement.
Mais écoutez, les gens pensent qu'un détective a tous les droits, et ce n'est pas vrai. On ne peut pas poser certains appareils dans une voiture ou dans une maison. On ne peut pas prendre des photos dans un lieu privé. On ne peut qu'en prendre dans le lieu public et avec plein de précautions, en pensant bien qu'il ne faut pas prendre les gens extérieurs à l'enquête.
Donc ça demande une concentration et d'être particulièrement minutieux dans sa façon de procéder.
Oui, parce que faire une surveillance, souvent les clients nous disent, ça va durer, ça n'y a pas pour longtemps, monsieur Regnault, vous allez voir. Et puis en réalité, on planque des heures et on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Parce que des fois, on nous confie des dossiers où les gens sont sûrs à 100% d'un résultat et on peut pas inventer les choses.
Alors justement, on a des obligations de résultat. Comment ça se passe? Il y a des clauses particulières?
On n'est pas tenu au résultat comme un avocat et comme un huissier. Hein. On fait remplir un mandat de pouvoir qui nous autorise à faire l'enquête avec le motif de l'enquête. On fait signer des conventions d'honoraires qu'on ne peut pas dépasser à de plus de 20%. Pour ma part, je n'engage aucun frais sans l'accord des clients. Bien entendu, il y a les honoraires qui peuvent varier selon la durée de la mission et tous les frais de déplacement, bien entendu.
C'est-à-dire qu'on est quoi, sur des forfaits à l'heure?
Alors, on a un forfait sur une base générale en France qui est environ en province de 50 euros de l'heure, plus les frais de kilomètre. Alors, les frais kilométriques, ça peut varier de 0,364 jusqu'à 1 euro du kilomètre selon les moyens employés et le véhicule employé.
Mais tout ça, ça se décide avant avec le client, c'est important?
Ah, ça se décide avant et on demande toujours une provision au client et cette provision, on ne peut pas la dépasser, et c'est marqué dans le contrat, plus de 20%.
Après, on l'a dit, vous travaillez par exemple sur des contrats d'adultère, ça veut dire qu'après vous êtes reconnu par les tribunaux, votre travail par exemple, il a une existence légale?
Alors, pour les constats d'adultère, D'une part, nous, on ne fait que la préparation du constat. C'est-à-dire qu'on surveille les personnes et après, on passe le relais à un huissier de justice. C'est pas le détective qui effectue le constat d'adultère, c'est l'huissier de justice. Alors après, l'huissier de justice, lui, a une requête qui est délivrée par le tribunal et qui lui permet de rentrer chez les gens à l'heure légale. Alors, l'heure légale, c'est 6h du matin, 21h le soir. Donc, on fait même pas de photos. On rédige un rapport qui est utilisable devant les tribunaux.
On peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir fait appel à un détective privé. C'est quelque chose de légal.
Mais dès l'instant que c'est dans le cadre légal. Si un client nous demande de surveiller son voisin sans aucun motif, je le ferai pas. C'est parce que ce n'est pas légal.
C'est à vous de juger, du coup, de la légitimité de la demande.
Oui, tout à fait. Et il m'arrive de refuser des dossiers.
Alors, c'est particulier. Ils viennent vous voir aujourd'hui. Pourquoi? On l'a dit, les adultères, c'était ce qui représentait le plus gros de votre travail. Aujourd'hui, les particuliers, c'est encore surtout pour ça ou les demandes ont tendance à se diversifier un petit peu?
Depuis quelques années, on a le problème de la garde des enfants et la maltraitance des enfants.
Alors justement, c'est une relation particulière avec les clients, là, quand on parle de particuliers qui viennent vous raconter leurs histoires de couple, de famille. Comment ça se passe? On doit garder un peu de distance. En même temps, forcément, ils vous dévoilent beaucoup de choses de leur intimité. C'est une relation très particulière.
D'abord, on est tenu au secret professionnel absolu. Et c'est vrai que les gens nous racontent leur vie. Il faut qu'on en prenne considération. Ils sont souvent dans un état dépressif. Et il faut les rassurer, les conseiller, de les aider le plus possible.
C'est-à-dire parfois on s'attache un peu à une personne qui va venir en disant je soupçonne mon mari ou ma femme de me tromper, et quand on sait que on a la preuve qu'effectivement il ou elle avait raison et qu'on doit venir amener ces preuves-là, c'est des moments un peu compliqués. On se dit on va aggraver la situation. C'est difficile à jauger. Il y a un côté un peu humain, psychologique.
Oui, c'est très dur d'annoncer à quelqu'un que son mari ou sa femme le trompe. Mais la plupart du temps, quand les gens viennent nous rencontrer, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu.
Donc s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire.
À 90%, oui. Alors les enquêtes aboutissent et puis à la fin du procès, j'ai même eu des gens qui m'ont reproché de leur avoir dit la vérité.
On vous la demande, mais on ne veut pas l'entendre.
C'est tout à fait ça.
Notre troisième rendez-vous cette semaine à la découverte de cette profession de détective agent de recherche. On rappelle toujours cette formule du détective privé que vous avez peut-être tous en tête. Nous découvrons cet univers avec Pascal Regnault qui est détective agent de recherche depuis plus de 35 ans, installé à Château-Ponsac avec l'entreprise Agence Aquitaine Limousin. On a beaucoup parlé, Pascal, hier de ce que vous faites pour les particuliers, mais on l'a dit aujourd'hui, le plus gros de votre travail, c'est sans doute vis-à-vis des entreprises.
Oui, tout à fait. Donc pour les entreprises, il y a deux vraiment cas d'enquête. C'est surtout enquête de concurrence déloyale et le travail et contrôle d'activité des salariés. On voit le cas de plus en plus. Les employés se mettent en arrêt de travail et ils vont travailler au noir.
Et donc évidemment, ça c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour la Sécu non plus. La Sécu n'a pas forcément les moyens. On se dit pourquoi la Sécurité sociale ne contrôle pas plus?
La Sécurité sociale a ses propres services de contrôleurs. Bon, ils ont à mon avis beaucoup de travail. Et le patron de l'entreprise, lui, il a beaucoup de travail aussi, mais pas de temps à perdre. Donc ils font appel à nous et 98% des cas s'avèrent vrais.
Quand un patron fait la démarche, parce que c'est un coût financier aussi de faire appel à vous, donc forcément c'est qu'il sait que il le fait pas pour rien.
Non, il le fait pas pour rien, et ça c'est 10 à 15 dossiers par an.
Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous fournit l'arrêt de travail, on vous fournit des éléments que vous allez être amené à contrôler?
Déjà, souvent l'employeur a eu des renseignements qu'il nous communique. Le patron s'est renseigné en disant on m'a dit que mon salarié était sur un toit ou en train de souder des tuyaux chez son voisin, quoi.
Alors comment ça se passe? Comment du coup vous vous rendez là où il est censé se trouver? On prend des clichés, on va à sa rencontre? Comment on fait?
On le surveille et on emploie des filatures ou une enquête et on voit effectivement si les gens de toit ou en train de passer une tondeuse dans un jardin et qu'il a un arrêt de travail pour une cheville foulée, voilà.
Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'après ce soit plutôt même le patron lui dire il est à tel endroit en général de telle heure à telle heure?
Non, je le conseille pas. Nous on fait un rapport de mission détaillé de ce qu'a fait la personne, pas de sa vie privée, de sa vie professionnelle entre guillemets, et donc le patron après il a plusieurs solutions, ou il le convoque et puis il s'arrange avec lui, ou alors après c'est les prud'hommes.
Ça veut dire qu'il arrive que en faisant une enquête sur un certain sujet, on découvre des petites choses à côté qui pourraient être matière aussi à enquête et à contestation, mais finalement celle-ci on s'en occupe pas.
Non, non, puisque si je suis chargé de faire une enquête pour déterminer que le salarié est travaille au noir ou fait de la concurrence déloyale à son entreprise, toute sa vie privée ça ne nous regarde pas.
Alors là, vous avez parlé des deux sujets les plus fréquemment demandés par les entreprises. Il y a d'autres petites choses qu'on vous demande plus rarement, mais qui arrivent également, sur lesquelles vous êtes amené à intervenir?
Oui, sur des vols dans les entreprises.
Vous faites quoi là? Vous jouez le faux salarié aux côtés des salariés incriminés?
Je ne veux pas dévoiler toutes mes commandes.
On n'a pas l'image aujourd'hui, donc vous avez de la chance.
Non, mais de toute façon, ce genre d'enquête de vol, dès l'instant que nous, on a des éléments, nous, je passe le relais à la gendarmerie ou à la police, selon le secteur.
On est plutôt toujours au démarrage de quelque chose avant de passer l'amende. On a parlé des huissiers hier dans le cas des constats d'adultère par exemple. Donc vous êtes là pour valider, on va dire, les premiers indices et ensuite vous passez la main à d'autres autorités plus compétentes dans leur domaine.
C'est surtout une question de juridique. Un détective ne peut pas faire une arrestation, sauf avec l'article 73, si c'est un flagrant délit, mais ça, tout citoyen peut le faire. Donc dès l'instant qu'on s'aperçoit qu'un fait est grave, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, moi je fais mon rapport, je le remets, s'il y a un avocat, bien entendu à l'avocat en priorité, et c'est lui qui décide de ce qu'il a à faire. Sinon, si les gens n'ont pas d'avocat, je leur conseille d'aller voir les services de police ou le gendarmerie.
Et c'est des enquêtes qui peuvent durer très longtemps?
Écoutez, la moyenne de temps actuellement, c'est entre 10 et 30 heures de travail par dossier.
Avec parfois beaucoup de temps à attendre comme ça, parce qu'on l'a dit en début de semaine, on est dans votre voiture, qui est l'un de vos outils de travail indispensable. On passe beaucoup de temps ici dans cette voiture à scruter, à observer.
Quand je prends un dossier, il y a la partie facturée, et ce que savent pas les gens, il y a la partie non facturée. Comme disent certaines des avocats que je connais, il dit « Monsieur Regnault, c'est un passionné de son travail. Et si on veut faire ce travail comme il faut, eh bien, il faut pas compter ses heures. »
Et notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de cette semaine de découverte du métier de détective agent de recherche. Je dis toujours détective privé pour que ça vous parle peut-être un petit peu plus, mais l'appellation officielle, on l'aura appris, c'est détective agent de recherche pour une profession particulièrement encadrée. On l'a dit, il y a des cartes professionnelles, les choses sont faites dans les règles et en témoigne Pascal Regnault, notre invité cette semaine de l'agence Aquitaine Limousin installée à Château-Ponsac. On a expliqué depuis le début de la semaine que vous travaillez pour les particuliers, pour les entreprises, peut-être beaucoup plus aujourd'hui pour les entreprises. Depuis 35 ans que vous exercez, la tendance est un petit peu inversée. Concrètement, le mode de travail, on va expliquer un petit peu comment vous procédez du premier rendez-vous avec un client jusqu'à la clôture du dossier. D'abord, peut-être les grandes qualités pour être détective, c'est quoi? On disait hier, on passe beaucoup de temps dans sa voiture, c'est la patience peut-être, la perspicacité. Quels sont les grands traits de caractère qu'il faut?
Vous venez de dire exactement ce que j'allais répondre. La patience, c'est un métier de patience. C'est des heures et des heures de surveillance, d'enquête, de technique.
C'est pas les experts, ça se boucle pas en 45 minutes, quoi, en fait.
Ah non. Il y a des affaires qui peuvent se régler en 30 minutes, mais c'est rare.
Par expérience, c'est pas la plupart du temps.
Non.
Alors concrètement, justement, comment ça se passe? Le premier rendez-vous avec un client, il vient toquer à votre porte, il vous passe un petit coup de fil. Quel est le déroulé jusqu'à la fin de ce dossier?
Bon, donc la plupart du temps, les clients nous appellent au téléphone. On donne rendez-vous souvent dans un lieu comme on est en train de le faire maintenant.
Un peu discret.
Ils nous expliquent la situation. Souvent, c'est les avocats, les cabinets d'avocats qui l'ont conseillé de venir me voir. Et donc, on fait un premier rendez-vous. Ils m'expliquent leur problème. Et on essaie de trouver la solution la plus rapide et pour eux, la moins coûteuse. La première consultation, si elle se passe dans la région Limousin, est gratuite. Il n'y a aucun honoraire de facturer.
Donc là, on discute, on détermine leurs souhaits, voir si c'est compatible, si c'est quelque chose qui est dans vos domaines de compétences. Et ensuite?
Et ensuite, on leur fait remplir en ordre de mission, une convention d'honoraire, avec le motif précis de la mission. Et on les tient informés après de l'enquête, pas jour par jour, mais tous les 2-3 jours, je fais le point avec les clients.
Donc ça veut dire que ça affine un petit peu les choses. Après, est-ce que le client peut dire, finalement j'en sais assez, on peut en rester là, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Enfin, déjà nous, on les conseille en disant, nous avons tel élément, maintenant on arrive au terme de la provision par exemple, à notre avis vous en avez assez, maintenant si vous en voulez un peu plus, eh bien on continue.
Il y a un engrenage, les gens disent, j'aimerais bien en savoir un peu plus, et puis si sur autre chose et sur quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une espèce d'addictif, un peu comme la voyance par exemple?
Oui, alors là ça arrive, mais je mets un terme à l'enquête immédiatement. Mais on met des limites, oui.
Alors concrètement ensuite, il y a du matériel pour travailler. Vous avez besoin de quoi? A priori, une voiture, si j'ai bien compris.
Vous êtes dedans.
Elle est confortable, donc c'est plutôt bien comme bureau secondaire.
Une voiture, un appareil photo, une bonne paire de jumelles. Je me suis équipé il y a quelques mois des nouvelles technologies de jumelles infrarouges qui prennent des photos et des films la nuit.
Donc on est quand même à la limite du James Bond. Hein. Est-ce qu'il y a des choses en revanche qu'on peut imaginer parce qu'on l'a vu dans les films d'espionnage et que ou qui n'existent pas ou que vous n'avez de toute façon pas le droit d'utiliser?
Alors, la grande mode aujourd'hui, c'est de mettre des balises sous les voitures. Alors, je veux mettre en garde tout le monde, ce genre de procédé est interdit en France. Sauf, bien entendu, si c'est votre véhicule et si c'est mettre une écoute dans votre maison. Mais pas aller le mettre chez le voisin ou sur la voiture du voisin. Ça, c'est totalement interdit et c'est pénal même. Et il existe, bien entendu, des détecteurs de ce matériel. Donc, on peut être amené à détecter si vous êtes piégé ou dans votre téléphone. Mais là, je fais appel à des professionnels autres que détectives.
Et vous sentez que les mentalités, elles ont évolué justement. On est plus suspicieux, on est plus curieux, on a envie de tout savoir sur les autres. Vous sentez que c'est des choses qui, en 35 ans, ont évolué?
Oui, ben, vous l'avez bien vu au niveau de la justice. Hein, tout le monde dépose plainte pour rien, pour un non, pour un oui. Hein, donc, ben, nous, c'est pareil. On sent que les gens nous demandent des choses qui sont pas réalisables.
Alors, et au niveau des technologies, parce qu'on l'a parlé, on parlait des jumelles infrarouges, il y a une vraie évolution, évidemment, en 35 ans, ne serait-ce qu'Internet, par exemple, qui permet de faire d'autres formes de recherche. Vous vous en servez aujourd'hui? Ça fait évoluer votre métier?
Ben écoutez, il y a 35 ans, quand on voulait téléphoner à un client, on allait dans une cabine téléphonique, et ce qu'il fallait, c'était les jetons, hein, ou les pièces. Il fallait surtout pas oublier. Maintenant, bien sûr, il y a la technologie d'Internet. Hein,
Il y a matière à travailler différemment?
Non, parce que la filature et les planques, c'est 80% du travail. Hein, bon, bien sûr, j'ai des confrères dans les grandes villes qui ne travaillent qu'avec Internet, mais je vois difficilement comment ils font pour prouver que quelqu'un est rentré dans une maison ou pas.
Et la filature, tout ça, ça s'apprend. On l'a dit, vous avez commencé à 18 ans. C'est quelque chose qui se travaille.
Donc maintenant, depuis 2011, il y a une école qui est à Montpellier, qui est gérée par le SNAP, où les gens vont faire une formation de 8 mois. Cela coûte relativement cher, puisque d'après mes derniers renseignements, c'était entre 8 et 10 000 euros. Ils exigent un bac plus 2 ou voire 3. Je vois pas ce que ça parle. Il faut avoir ce métier dans la peau. Si on n'a pas ce métier dans la peau, on a beau faire toutes les formations qu'on veut, ça et des relations.
Ah, dans l'imagerie populaire, on imagine le détective avec son journal, avec les deux trous pour regarder à travers. Ça, c'est plein de clichés que l'on a sur vous. Se déguiser, par exemple.
Moi, je me déguise pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer de vêtements. On change de voiture régulièrement. On peut aller planquer 3 heures à un endroit et le lendemain y revenir avec la même voiture. Et d'autre part, l'habillement. Il faut être bon, il faut pas s'habiller en rouge pour cela ou avoir un chien dans la voiture. Parce que les gens vont pas repérer, ils se méfient pas, mais ils vont repérer le chien. Il dit, ah tiens, celui-là, il avait un chien.
Donc ça demande beaucoup d'équipement. Donc on a un grand parking avec plein de voitures à la maison pour pouvoir tourner régulièrement.
Oui, on a d'autres techniques. Maintenant, il y a les locations de voitures.
Vous avez la sensation qu'il faut faire tout ça parce que les gens sont aussi de plus en plus méfiants?
Alors, quelqu'un qui se méfie, on s'en aperçoit très rapidement, par expérience bien sûr. S'il se méfie, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher.
Mais donc ça veut dire beaucoup de matériel et avoir un peu l'âme solitaire aussi?
Un petit peu aussi, un petit peu.
Parce qu'on croise pas grand monde et ceux qu'on suit, on n'est pas censé leur parler.
Parce qu'en plus, quand on surveille, on peut pas ni écouter la radio, ni lire, puisqu'il faut être sur l'endroit qu'on surveille et la moindre inattention, hop, c'est parti.
Et est-ce qu'on a de la déformation professionnelle quand on travaille pas? Est-ce qu'on a toujours l'habitude quand même d'avoir un œil qui est attentif à regarder des choses? Des fois on trouve un comportement bizarre. Est-ce qu'on a cette déformation là?
Ah oui, tout à fait. Pour moi, j'observe des fois les gens comme ça, mais à titre privé. Hein.
Il n'y aura pas de rapport, on est rassuré.
Il n'y aura pas de rapport, non.
On est sauvés. Et c'est notre cinquième et dernier rendez-vous de cette semaine à la découverte de la profession de détective agent de recherche. Cet univers du détective privé, comme on l'appelle communément, que nous fait partager depuis le début de la semaine Pascal Regnault de l'agence Aquitaine Limousin, je rappelle, dont le siège est à Château-Ponsac. 35 ans d'expérience et forcément 35 ans de souvenirs. Alors, il y a le secret professionnel, hein, on l'a dit, on ne pourra pas dévoiler les histoires et des dossiers que vous avez eu à gérer, mais il y a parfois des moments un peu cocasses qui marquent évidemment votre parcours et ces 35 années ?
Oui. Il nous est arrivé un matin dans une ville de France. On procédait à un conseil adultère. Enfin, l'huissier procédait au conseil adultère. Et nous, on était en surveillance à l'extérieur de la maison. Et d'un seul coup, on a vu la personne qui s'est sauvée. Il y avait de la neige. Elle s'est sauvée nue sur le boulevard.
Histoire d'être discret.
Histoire d'être discret. Alors, on l'a poursuivi parce qu'il y avait des services de police avec nous. On l'a poursuivi avec des couvertures pour la cacher. À 6h du matin.
Là, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais quand on le raconte, effectivement, à la personne qui vous avait fait la demande, par exemple, on le présente comment ?
Non, mais elle n'écrit pas. On ne dit rien.
On raconte pas comment c'est fait le déroulement.
Nous, voilà.
Ça fait partie de l'expérience. Alors, après, il y a les entreprises, on l'a dit, hein, où là, c'est plus classique. Donc, en règle générale, il n'y a pas de grosses surprises sur ces dossiers-là ?
Non, il n'y a pas de dossier. On fait notre travail. C'est à l'extérieur de l'entreprise, très souvent. Mais non, il n'y a rien de particulier.
Mais parfois, des dossiers qui s'éternisent. On signe un contrat en se disant on va boucler ça en 2 heures et ça dure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Oui, il y a des dossiers avec des grosses sociétés. On croyait régler le problème en 10, 15 heures. Et c'était beaucoup plus compliqué et ça a fait 150, 200 heures de travail.
Des fois, quand on part de chez soi le matin, on ne sait pas forcément à quelle heure on va revenir ou à quel jour.
Alors là, des fois, on part pour 10 minutes, 1 heure, et on se retrouve à l'autre bout de la France.
Parce que l'idée, c'est de suivre la personne et de faire un rapport sur ce qu'elle va faire vraiment. Donc l'idée, c'est d'aller où elle va.
Oui, mais là, on demande quand même l'autorisation par téléphone. Maintenant, on est équipé dans les véhicules. On demande aux clients, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on suit ou on arrête ? Donc, j'ai des fois des clients. Il y a l'année dernière, je suis parti de Limoges et je me suis retrouvé à Biarritz.
Bon, sympa,
alors,
finalement.
Alors que je devais rester sur Limoges. Mais là, j'ai eu l'accord au client en verbal et je suis parti.
Bon, on en profite un peu une fois qu'on est à Biarritz, une fois que le dossier est quasiment bouclé, on se dit, bon, ben, tant que je suis là.
Ben non, parce que là, il pleuvait et il faisait vraiment pas beau.
Ah, faut choisir ses dates, hein, aussi pour les contrats à Biarritz.
C'est pour ça que j'ai toujours une valise toute prête dans le coffre.
Il y a les vêtements de toutes ces saisons.
Toutes les saisons.
Ça marche. Après, donc, ça fait 35 ans que vous faites ce métier-là. Vous voyez continuer encore de nombreuses années. Vous vous dites qu'il y a un moment donné d'être comme ça, longtemps seul, dans sa voiture, sans pouvoir faire d'autres activités pour rester très concentré. Il y a un moment donné où on atteint ses limites.
Ben oui, parce que bon, je prends de l'âge et puis il arrive un moment où c'est quand même dur de passer des nuits entières dehors, par tout temps. Hein. Moi, je me suis dit 4-5 ans de plus, et puis après, je verrai. Bon, le temps, vous savez, j'ai un grand frère qui a 84 ans, et qui exerce toujours à Strasbourg. Moi, j'exerce depuis 35 ans, je ne suis pas le plus vieux, mais je suis celui qui a exercé le plus longtemps, sans s'arrêter.
Voilà, il y a peu de vacances, finalement.
Quelques jours par an.
Sans surveiller personne.
Ah, encore.
C'est ça. Puis c'est un métier d'aventure aussi, finalement. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans la journée. C'est aussi ça qui fait le sel de votre quotidien.
Ah oui, c'est un métier d'aventure. On va peut-être très bien m'appeler dans 10 minutes pour que je parte à l'autre bout de la France. Hein.
Bon, si c'est pour surveiller un journaliste, vous dites que vous êtes en congé, c'est pas grave. Si on veut vous contacter justement, le mieux c'est quoi ? C'est le téléphone tout simplement ?
Le téléphone tout simplement.
Alors on peut donner le 07 62 44 00 87. Vous êtes donc à Château-Ponsac, mais vous déplacez votre zone d'action. Donc elle est principalement Aquitaine-Limousin, mais au gré des enquêtes, vous allez où les clients qui ne le savent pas forcément vous mènent.
Mais je fais entre 30 et 40 000 km par an.
Pas mal, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs voitures alors pour les répartir.
Oui, tout à fait.
En tous les cas, une belle histoire, un métier de passion. Et sinon, la dernière question, quand on est détective, est-ce qu'on est forcément passionné des émissions, des séries télé d'enquête ou justement c'est un peu trop le boulot et on décroche à la maison, on passe à autre chose ?
Ah oui, on passe à autre chose. De toute façon, c'est tout à fait irréel. Sur une émission de télé, il y a 10% de vrai.
On le regarde plus comme une comédie à la limite.
Oui, tout à fait.
En tous les cas, on va vous souhaiter une belle suite d'aventures, belle réussite dans tous les dossiers que vous allez acquérir dans les jours et les mois qui viennent.
L'année dernière, j'ai eu 99% de réussite sur tous mes dossiers.
Bon, 100%, hein, c'est l'objectif pour l'année prochaine.
Ben, j'espère.
On viendra pour faire les comptes. Merci en tous les cas d'avoir passé la semaine avec nous.
Merci à vous.